direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On peut pas faire de magie, on peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Oh, bonjour les petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
On entame notre troisième saison. J'aurais aimé vous retrouver en studio avec moi, la gang. Mais on peut se le souhaiter cette année de se revoir ensemble autour de ce studio. J'espère, hein?
J'espère.
Oui, que oui.
On s'ennuie.
À ce cabaret.
C'est l'urgence.
Comment tu dis, Geneviève?
C'est l'urgence.
C'est l'urgence, l'urgence nationale. À ce cabaret, on a une surprise pour vous, une nouveauté. Il est là, il patiente silencieusement, un invité spécial. Patientez à votre tour. Dans deux minutes, je vous dis c'est qui cet homme mystère. Alors, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, un bref rappel que ce cabaret, bien, on choisit un thème, un nouveau thème complètement différent à chaque cabaret. Et cette semaine, c'est le thème de Juan qui a retenu notre attention. Je vais dévoiler ce thème dans quelques instants. Mais avant, je dévoile le nom de nos acolytes pour cette troisième saison. Christine Gélinas, Geneviève Proulx. Janelle
Bonsoir.
Touchette et
allô, allô.
Juan Blasco.
Allô.
Alors, Juan, cette semaine, comme je le disais, c'est ton thème qu'on a retenu. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce thème?
Ben oui, Jean-François, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est que tout au long de ma vie, la bouffe a souvent été un plaisir, hein, comme mon ami Jen, et surtout un défi. Donc j'ai longtemps été le végétarien à table pour des raisons diverses et variées. Et du même fait, en fait, le sujet de ce soir était pour moi un incontournable dans ma vie. Et en fait, maintenant, c'est même l'inverse. Le défi, c'est de faire en sorte que ça ne tombe pas dans une obsession. C'est ça.
Intéressant. Alors je reviens vers vous, les acolytes, dans quelques instants, le temps de présenter ce thème, ce fameux thème au cabaret. Un poète grec de l'Antiquité disait que le ventre était le plus grand des dieux. Mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle d'alimentation, il y a plusieurs dieux. Si l'être humain est à la base un omnivore opportuniste, ils sont nombreux à ne simplement pas se fier à leur instinct primaire pour se nourrir. Végétarien, végétalien, flexitarien, keto ou céto, sans gluten, sans lactose, plus du tiers des Québécois disent suivre un régime particulier. On exclut des aliments de notre alimentation par conviction pour certains, par éthique, par souci de santé pour d'autres, par pression sociale ou tout simplement pour être plus svelte. La façon de se nourrir transcende même l'alimentation pour certains, devenant un mode de vie. On n'a qu'à penser aux véganes ou, diamétralement opposés, les adeptes du carnisme. Vous l'aurez deviné ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour des modes alimentaires. Je me tourne vers vous, les acolytes. Christine, celle qui, tout au long de ce cabaret, va nous accompagner en musique. Bonsoir, Christine.
Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, tout le monde.
Ah.
En fait, je vais, moi, ce soir, les acolytes, vous proposer un quiz, si vous voulez bien.
Oh, génial. On aime ça quand tu nous fais des quiz.
Je vous propose des chansons et vous allez me dire de quel mode alimentaire on parle.
Christine, cette semaine, j'ai eu une pensée pour toi parce que à la fin de l'émission, tu sais, je finis en citant quelqu'un, puis j'ai lu Shakespeare qui disait que la musique est l'aliment de l'amour.
Oh,
c'est beau, hein?
Wow! Très beau. Je suis gâtée, moi.
Janelle, c'est pas évident quand on commence à s'informer un peu des modes alimentaires. Il y en a plusieurs. Il y a les végétariens, comme j'ai dit, les végétaliens, les flexitariens, ceux qui ne jurent que par le bio. Ça, c'est les faciles. Mais toi, tu es allé vers les nouvelles tendances. Qu'est-ce qui était un peu plus exotique?
Oui, exactement. J'avais envie un peu de couvrir les bases, de clarifier ça, puis peut-être même de vous en apprendre.
Oh, c'est bon. Toi, Geneviève, pour ta part, s'il y a des modes alimentaires qui gagnent en popularité, c'est certainement parce que quelquefois, il y a des vedettes qui sont derrière, qui font la promotion de ces, peut-être sans le vouloir, mais qui font quand même la promotion de certains modes alimentaires, et tu vas nous parler de ces vedettes-là.
Absolument, puis tu as tout à fait raison. Hein? C'est très démonstratif quand les vedettes perdent du poids comme ça, qu'on les voit apparaître, on est « wow », on est tout à fait impressionné. Alors, je vais vous parler un petit peu de ça ce soir, les acolytes.
Non, j'ai bien hâte, Geneviève. Juan, tu as décidé de focusser sur un mode alimentaire qui gagne en popularité, le régime cétogène, qui est aussi connu sous le nom, je pense que c'est l'anglais là, qui fait ce surnom-là, c'est le keto.
Oui, tout à fait. Donc oui, j'ai choisi ce régime en particulier parce que pour moi, c'est une diète qui m'intrigue et surtout une diète qui contient des principes qui pour moi, pour mon corps à moi, fonctionnent bien dans ma recherche du poids idéal tout en me gardant en santé.
Et c'est très important de se garder en santé. Je.
Tout à fait.
Bien, on a eu l'idée d'inviter autour de la table notre ami et éminent professeur Jean-Claude Moubarak. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour les amis, bonjour Jean-François.
Alors on le lit, on l'entend souvent lorsqu'il est question de la santé publique, lorsqu'il est question notamment de la nutrition en santé publique. C'est pas n'importe qui là autour de la table, Jean-Claude Moubarak. Il a quand même participé à la création du guide alimentaire brésilien qui, lui, a grandement inspiré le nouveau guide alimentaire canadien. C'est exact, Jean-Claude, tu as fait ça?
Oui, dans mes années de post-doctorat, puis je suis chanceux parce que j'ai pu faire ça au Brésil. Alors que j'aurais pu faire ça dans un endroit aussi moche que Atlanta ou Georgia.
Jean-Claude, je t'ai tutoyé parce que ça fait 40 ans qu'on se tutoie, on est amis d'enfance. On va continuer dans les prochaines minutes à se tutoyer, t'es d'accord avec ça?
Ben si tout va bien, oui.
Okay, c'est bon.
Ça pourrait changer.
Alors, c'est un plaisir de t'accueillir au cabaret, Jean-Claude. Ça démarre, les acolytes, le cabaret est ouvert sous le thème des modes alimentaires.
Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain.
Une chance que toi. T'es quétaine, mais c'est bon, hein?
Oh, non, ça! Un classique québécois, vraiment. On écoutait Tex Lecor avec la chanson Le Frigidaire. Tex Lecor, qui était animateur de radio, animateur de télé, auteur, compositeur et interprète, et aussi peintre par la dernière partie de sa vie, décédé en 2017. Ça faisait pas partie de mon quiz, cette chanson-là, mais vraiment classique québécois, tant qu'on mettra du beurre sur notre pain. Hein.
Il a presque tout fait les éléments qu'on retrouve dans une maison. Il a fait le frigidaire, il a fait le téléphone, il a fait. Il en a fait quelques-unes des chansons comme ça. Merci Christine, on revient plus tard à toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Vous nous écoutez, vous nous aimez. Le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est de nous aimer, d'aimer notre page Facebook. Elle est disponible à l'adresse suivante, facebook.com/ le cabaret des acolytes. Finalement, un mot pour vous dire que si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez le permet, bien allez mettre des étoiles, un commentaire ou mieux, abonnez-vous à notre podcast, à notre balado. Alors, on poursuit ce cabaret sous le mode sous le thème des modes alimentaires et je me tourne cette fois-ci vers Janelle. On en parlait tantôt des grandes tendances. Si je m'avance un peu, là, on peut les nommer, bien évidemment, il y a le mode que la majorité des gens a, c'est le mode omnivore, mais il y a les végétariens, les végétaliens, tout ce qui découle du végétarisme, donc les pesco-végétariens, c'est ça? Les pesco-végétariens, les ovo-végétariens. Alors, il y a ces grands modes, mais il y a aussi des modes un peu plus muettes, et tu vas nous démystifier le tout.
Oui, exactement. Tu mentionnais végétarien, végétalien. On sait très bien que les végétariens, on les connaît quand même bien, là, ceux qui mangent fruits et légumes. Végétalien exclut tout produit animal. Pour compléter à ça, je rajouterais même qu'il y a le polotarisme qui consomme uniquement de la chair de volaille, puis aussi les flexitaristes qui sont principalement végétariens, mais à certaines occasions consomment de la viande et des produits dérivés. Donc, comme tu disais, dans les végétariens, il y a tout un spectre aussi de comme sous-catégories, là, si on veut. Mais Jean-François, j'ai envie de te poser une question piège. Connais-tu la différence entre le végétalisme et le véganisme?
Oui, Je connais. Je pense que le véganisme, c'est plus un mode de vie. En fait, c'est ça transcende ton alimentation. Ça va plus loin, ça fait partie. Tu consommes pas du cuir, tu consommes pas du... Là, j'ai juste le cuir en tête.
Oui, exactement. Dans le fond, c'est un mode de vie tout à fait qui exclut tous les produits issus de l'exploitation animale.
Oui. OK. Okay. Est-ce que notre chercheur autour de la table dit qu'on est bon jusqu'à date?
Tout va bien, oui. C'est très intéressant. Même j'en apprends, je suis en train de noter des choses.
OK, c'est bon.
Donc, dans les dernières années, on a vu une augmentation du no-glue, right, hein, qui est le sans gluten, et du no-milk, qui est le sans lactose. On a entendu parler aussi des modes paléo et keto, qui ont gagné beaucoup en popularité. Je vous explique la différence. Le régime paléo, parfois appelé régime des hommes des cavernes, repose sur le principe que la consommation d'aliments disponibles pour les chasseurs-cueilleurs du paléolithique favorise une santé optimale. Donc, le paléo élimine les grains, les légumineuses, le sucre transformé, la plupart des sources des produits laitiers. Le régime céto ou keto, cétogène ou keto en anglais, comme tu mentionnais plus tôt, lui vise à induire la cétose par l'ajustement calculé de macronutriments alimentaires, donc à savoir plus les glucides, les protéines, les lipides.
Et Juan va nous en parler tout à l'heure dans son...
Oui, exactement. Donc, on veut, dans le fond, augmenter... avoir un plus grand apport de bons gras, de protéines et diminuer donc l'apport de glucides dans ce mode-là. Le crudivorisme, également connu en tant qu'alimentation vivante, là, ça c'est une consommation de nourriture non cuite. Donc les adeptes de ça estiment que la cuisson des aliments élimine une large part des vitamines et nutriments présents dans l'état naturel, donc décident de ne pas faire cuire leurs aliments. Et une variante, c'est l'instinctonutrition. Donc elle consiste, elle, à préparer les aliments crus tout en évitant d'ajouter des artifices qui pourraient altérer la consistance. Donc ici, pas d'assaisonnement ou de rien de mélangé.
Ah, Jean-Claude, cette semaine, on se parlait en pré-entrevue. Là, parle-moi, là, tu me parlais d'une forme de comment tu as dit, instinctonutrition, Janelle, c'est ça?
Oui, instinctonutrition.
Mais Jean-Claude, tu me disais qu'il y en avait pour certains que ça allait encore plus loin que ça, là.
Bon, mais c'est-à-dire que pour certains, l'essentiel serait de manger selon son instinct et de privilégier un seul aliment à la fois. Donc, l'idée, c'est de se lever le matin puis de voir qu'est-ce que j'ai envie de manger. Est-ce que j'ai envie de manger des carottes ou de la laitue ou des betteraves?
Du bacon. Genre, mettons, j'ai envie toute la journée juste manger du bacon.
Ah, okay, vas-y, juste du bacon, à fond, en faire la caisse, puis le lendemain, on change d'aliment.
Est-ce qu'on pourrait garder le même aliment? Prends-moi du bacon, hein?
Ouais, ben c'est ça. Moi, ce serait des bonbons à longueur de journée. Mais ce que je trouve intéressant, peut-être juste pour donner un commentaire, ce sont tous des préoccupations rationnelles puis intéressantes que les gens ont, mais ils poussent ces préoccupations dans les extrêmes. Donc, je vais peut-être vous en parler à la fin, mais c'est en nutrition, la clé, c'est la balance. Puis, dans chacun de ces régimes-là ou ces modes-là, on a une idée qui est intéressante, mais on la pousse à l'extrême. Et puis, je pense qu'on fait fausse route en réfléchissant comme ça.
Okay.
C'est super intéressant. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, ça va se... Dans les prochaines tendances que je vais parler, là, parce que là, j'ai fait un peu le tour des modes, là, je vais tomber plus dans les tendances. On va reconnaître ça exactement, ce que tu dis, Jean-Claude. Le prochain, c'est le snacking, donc les adeptes qui mangent toujours sur le pouce, dans la rue, dans les transports en commun, tout le temps des produits on the go. Ici, ça se traduit aussi par nos fast-food, là, donc le snacking qui est une tendance.
Ils ont entre 15 et 40 ans, parce qu'ils ne vont pas plus loin de 40 ans, ces gens-là, je pense.
Le prochain, l'ingrédience. Donc, le phénomène s'appuie sur la connaissance par le consommateur de la qualité du produit, donc leur origine, la méthode de transformation des aliments qu'on consomme. Donc, ça, c'est l'ingrédience. Il y a une tendance aussi qui s'appelle la dimension hédoniste. Donc, celle-ci fait davantage référence à la gastronomie. Donc, les adeptes sont prêts à débourser davantage pour des produits plus esthétiques, alliant la convivialité, le goût, le plaisir de manger sainement. Donc, ça, c'est la dimension hédoniste. Mmh. La ration alimentaire qui, eux, sont soucieux de consommer sainement et en quantité suffisante la nourriture nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, ils préparent là, de façon calculée les différentes composantes, donc protéines, glucides, eaux, féculents, etc. Donc, c'est vraiment une ration alimentaire calculée selon ce qu'on croit que notre organisme a besoin.
OK. Et ça, j'imagine que certaines applications récente. L'application sur notre iPhone ou notre téléphone intelligent nous pousse aussi à aller vers ces avenues-là, la ration alimentaire.
Oui, nous aide à calculer, exactement. Mm-hmm. Ouais. L'alimentation fonctionnelle, elle, cette tendance-là vise à retrouver la santé en corrigeant certaines anomalies biologiques ou biochimiques là, via des propriétés thérapeutiques des aliments. En Amérique du Nord, là, cette tendance-là a pris plus d'ampleur chez ceux qui craignent ou qui croient combattre le cancer avec certains aliments. Mais des exemples, mettons, plus communs, là, les acolytes qu'on peut connaître, c'est les barres énergisantes là, qu'on se dit qui vont nous donner l'énergie. Ou même, j'ai entendu qu'il y avait des yogourts qui stimulent le cerveau. Là, ça aussi, j'ai lu ça. Ouais, Jean-Claude, as-tu quelque chose à ajouter?
C'est un bon exemple de mode qui va dans l'extrême. T'as les eaux vitaminées, par exemple, entrent dans cette catégorie. Donc, c'est l'industrie agroalimentaire fait ce qu'on appelle la fonctionnalisation. Là. Ils insistent que certains aliments peuvent avoir des effets bénéfiques sur le cerveau, sur la croissance des muscles, etc. Donc, c'est au-delà simplement d'avoir un effet bénéfique pour le corps, c'est que, selon eux, ces aliments-là vont nous donner des super pouvoirs.
Ouais.
Et puis et là, il n'y a plus de limite parce que c'est très lié à la commercialisation de notre alimentation. Puis c'est de faire croire aux gens qu'on peut se développer, devenir, avoir des meilleurs cerveaux, des meilleures performances en allant miser sur ces aliments-là, ces ingrédients-là fonctionnels.
Ah, voire même guérison, hein, ce que j'ai lu aussi. Je n'ai pas voulu pousser dans ma chronique sur cet aspect-là, mais j'ai lu même, voire même des aspects ou des bienfaits de guérison. C'est comme quoi, là, que... Ouais.
C'est l'exemple des antioxydants, par exemple. Ça, c'est rentre dans cette catégorie de produits qu'on met de l'avant pour leurs vertus extraordinaires.
Il m'en reste deux petits locaux. Le localo... Vorisme, localovorisme, donc l'achat local, je me sens enfargée là-dedans. Localovorisme, donc encourage la consommation de la nourriture produite à moins de 200 km de son patelin. Donc, vraiment, wow. Achat local, on l'entend.
Jean-Claude?
Je pensais que ça s'appelait l'égoïsme, non? C'est pas la stratégie de Lego de miser sur le local?
Ah, c'est
de
bon. L'égoïsme. Bravo.
Il y a, pour terminer, la détox ou le jeûne intermittent. Donc, on se détoxifie, on se purifie, soit par le jeûne plus ou moins long, soit par l'ingestion de soupe ou de cure de jus. Écoute, j'aurais pu continuer là, les acolytes. Je vous ai nommé les bases et tendances. Je suis convaincue quand même que ce mode-là, on cherche tout à atteindre le même objectif, soit d'avoir un esprit sain dans un corps sain, d'essayer de trouver un équilibre, mais dans le fond, des fois, c'est vraiment difficile puis on n'est pas là du tout. Là.
Donc, exact. Merci beaucoup, Janelle. Et là, Christine, on commence ton quiz avec cette chanson. A vegan. Hot dog. A vegan. Hot dog. A vegan. Hot dog. On a cool summer day. A vegan. Hot dog. A vegan. Hot dog. Eating hot dogs on a cool summer day. A vegan. Hot dog. Kristen.
On écoutait Vegan Hot Dog de Winkle, James Harkness. Bon, ben, allez-y, je vous écoute. Ça parlait
c'est
de
pas bien ben compliqué.
Non, mais c'était Vegan Hot Dog. Là, tellement. Fait, les Wiggles, là, moi, mon fils a écouté ça quand il était jeune, les Wiggles.
Oui. Bon. En fait, moi, il y a certains modes alimentaires qui poussent un peu certains aliments à se redévelopper. Et j'avoue qu'il y a certaines choses bizarres qui apparaissent là.
Par exemple, le hot dog vegan.
Le hot dog vegan, exactement. Incroyable. Ça en est un bon exemple. Moi, le tartare végétarien. Là, ça, c'en est un autre. Ouais, là. Vous, les acolytes, est-ce que vous en avez un comme ça, un aliment que vous trouvez bizarre? Là? Ça ne fit pas avec le mode alimentaire. Là.
Moi, moi, ça me surprend tout le temps. Je suis un peu intrigué. J'en ai essayé un ou deux. C'était pas très, très,
je qu'on va dire très, très bon.
Mais c'est le fromage.
Le fromage.
Le fromage. Ah, mon Dieu, c'est pas très bon. J'imagine que ça dépend des sortes. Puis en plus, quand tu lis les ingrédients là-dedans, tu sais même pas c'est quoi qu'on mange.
Mm. En tout cas. Absolument. Je suis d'accord, j'allais dire la même affaire, le fromage.
En avez-vous d'autres? Fromage, ça en est un très bon.
Mais il y a le Beyond Meat aussi.
Ah oui, le Beyond Meat. Ouais. Meat.
Oui, le Beyond
Meat. La fausse viande, là.
Oui, exact. Ouais. Qui est au-delà de juste comme la galette, mettons, de légumes écrasés, là, qui va comme...
Exact, exact. Oui,
on a le droit de donner des exemples qui ne sont pas des exemples véganes?
Oui, vas-y. Dans tous les modes alimentaires, oui.
Moi, je trouve ça très comique, l'eau sans gluten, parce que l'eau...
Oh my God!
Donc, c'est l'inverse, c'est tellement... Ça arrive tout le temps, souvent.
Cette obsession pour indiquer sur chaque produit là, qu'il n'y a pas de gluten devient comique. Donc, voilà.
Prochaine chanson pour le quiz? Allons-y.
On y va.
J'ai bu du café sans sucre, sans lait, sans café, sans rien. J'ai troqué mes goûts de lucre pour un thé végétarien. J'ai supprimé les lipides, les glucides à tour de rôle. Sucer des trucs insipides, sans un poil de cholestérol. Si pour ma Cyrilia, les recettes de Montignac. C'est Cyrano sans Bergerac, c'est salade sans Montaignac. Manger ou maigrir, il faut choisir.
Un peu dans la même veine, tout le monde.
C'est bon. Donc.
Moi, j'hésite. Ben, il parlait de végétarien.
Oui, ouais. Il parlait de végétarien.
Ouais. Mais il y avait aussi le régime Montignac. On en a parlé cette semaine. Il y avait le régime Montignac.
Exactement. Oh. Ben, c'est pas mal les deux. Hein. Ça englobait les deux, mais je faisais un petit clin d'œil au régime Montignac demi-point quand même? De cette semaine.
On compte les points.
Un demi-point, pourquoi?
On va te le dire à la fin de l'émission. On poursuit ce cabaret des acolytes et je me tourne cette fois-ci vers Geneviève. Et comme je le disais en introduction, s'il y a des modes alimentaires qui gagnent en popularité, c'est aussi parce qu'on est quelquefois influencé par nos vedettes qui sont des fois sans le vouloir, qui font sans le vouloir la promotion de leur propre mode d'alimentation. Et tu vas nous parler de ces vedettes, Geneviève.
Oui, avec plaisir d'ailleurs. Et j'entends ça avec une chanteuse britannique qui semblerait avoir perdu aux alentours de 45 kilos au courant de certaines années, donc pas non plus trop rapidement. Alors, je vous parle d'Adèle pour commencer.
Est-ce que quelqu'un
Oui.
Ouais, oui.
Transformation majeure.
Ah oui.
Adèle est keto, elle.
Ouais, c'est ça.
D'après toi, elle est keto.
Ouais. Ouais, pour avoir perdu autant, elle est keto.
Mais pas kétine, là.
Oh, ben, non. Ça dépend.
Oui, à ne pas confondre. Hein? Elle n'est vraiment pas kétine, en effet. Ben, en fait, Adèle, elle préconise le régime Steer Food. C'est CERT Food ou CERT. OK? C'est un régime qui est principalement basé sur des protéines, mais pas n'importe lesquelles. C'est sur des protéines qu'on nomme les sirtuines, donc d'où provient justement le nom du régime CERT-sirtuine. Ces protéines ont des valeurs anti-âge, semblerait, puis brûlent graisse lorsqu'elles sont combinées à des aliments de faibles en calories. Donc, paradoxalement, par contre, avec ça, le chocolat noir et le vin rouge sont recommandés dans ce régime. Ils seraient riches en sirtuines.
Ah, ben on s'en va tous sirtouin.
Pour moi, ça, pour moi.
Quand même intéressant. Oui, Jean-Claude,
oui.
Ça sonne comme des médicaments qu'elle prend. Ça sonne pas très, à part le chocolat puis le vin, ça sonne pas très appétissant.
Non, pas tant, je suis d'accord avec toi. Donc, notre deuxième superstar, je vais vous parler de Jennifer Aniston. Alors, d'après vous, qui a été déclarée maintes reprises la plus belle femme du monde, entre autres en 2004. Donc, d'après vous, notre belle Jennifer Aniston, là, c'est quoi elle, son régime?
Moi, je pense qu'elle est vegan.
Moi aussi, je pense qu'elle est vegan.
Parce qu'elle porte, pas de robe de cuir. Hein?
Tu penses qu'elle est vegan? Elle fait le shampoing. Elle fait quel shampoing, elle?
Elle fait Aveeno.
Ah, Aveeno, c'est ça. Elle doit manger son Aveeno, je pense.
Fait que c'est de l'avoine.
De l'avoine.
Alors, en fait, Jennifer Aniston, bon, principalement, là, aux dernières nouvelles, c'est les cures détox qu'elle préconise, OK? Parfois jumelées à le fameux fasting ou le jeûne intermittent, là. Mais ces cures détox, là, justement, qui l'eût cru que de notamment manger des petits pots pour bébé à 51 ans, pardon, ça permettait d'être belle de même. Hein? Franchement, des petits pots pour bébé, il semblerait. Elle débute aussi sa journée par une bonne tasse d'eau citronnée. Elle concentre son alimentation sur les oméga 3 quand même aussi, les légumes vapeurs, les fruits.
Mais elle est encore jeune, on va voir si elle vieillit longtemps. Là.
Donc, la prochaine superstar dont je vais vous parler, c'est un homme magnifique tout le temps, au travers du temps, depuis Fight Club jusqu'à Once Upon a Time in Hollywood. Là, je vous parle de Brad Pitt, bien entendu. Donc, d'après vous, Brad Pitt, quel genre de mode alimentaire il préconise?
Ah ben, les petits pots. Les pipeaux, ils ont été mariés.
OK. Ben, en fait, Brad Pitt, là, je pense que, en fait, les acolytes, parmi toutes les superstars là, que j'ai, moi, j'ai, dont je vais vous parler, dont je vous parle en ce moment, là, tout ça, je vous dirais que c'est celui qui me paraît le plus sain à moi, personnellement, parce qu'il mange justement des aliments très sains, puis il y a un régime relativement équilibré. Fait que notre adoniste de 57 ans consomme notamment de bonnes quantités de protéines, mais il s'entraîne beaucoup aussi, Brad Pitt. Et puis, de préférence locale aussi, quand même, ses protéines, viande, poisson, légumes, fruits, et en dessous de 160 grammes de glucides complexes par jour.
OK. Okay. Là, il est dans le... Comment t'as dit, Janelle, tout à l'heure, la fonction alimentaire? Non, le ration alimentaire.
Oui, il a tout le calculé, là, oui.
Ben, il semble bien manger. Il semble être raisonnable. Je l'écoute, je pense qu'il semble être...
normal, entre guillemets.
Ouais. Ouais, il semble... Ouais. C'est juste faire attention quand on parle de protéines. Je suis toujours étonné parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble, les protéines. Tu sais, à l'épicerie, les protéines, on ne peut pas les acheter. On parle de protéines, mais on ne les voit pas, puis on ne peut pas les acheter.
Surtout une protéine complexe.
Oui, c'est ça.
Il semble une protéine, ça doit être complexe, en tout cas.
En fait, la fin
mais attends,
de la
mais
phrase,
attends,
là...
attends, Jean-Claude, excuse-moi, Geneviève, mais c'était quoi ton point? C'était, dans le fond, on fait beaucoup de promotions sur les protéines, mais c'est pas quelque chose de tangible, fait que c'est pas la bonne promotion qu'on fait?
Ouais, on réduit souvent la valeur d'un aliment à la présence de nutriments à l'intérieur de l'aliment, alors que l'aliment est beaucoup plus complexe qu'un assemblage de protéines puis de glucides. Donc, c'est ça, c'est un peu une blague que je fais parce que on va souvent parler des vitamines, des protéines, mais on oublie l'ensemble de l'aliment, puis il n'y a aucun aliment qui vous fournit seulement des protéines ou des lipides ou des glucides. C'est toujours un mélange complexe. Il faut regarder l'ensemble de l'aliment, puis et la façon dont on prépare et on le transforme, parce que ça modifie son contenu. Donc, en nutrition, on essaye d'aller au-delà des nutriments, des sucres, des protéines, des vitamines, pour parler de l'ensemble de l'aliment, de son origine également. Fait que,
ah ouais, c'est intéressant.
Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Désolé, Geneviève.
Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Fait que lui, juste pour être certaine, c'est que dans le fond, il est en dessous de 160 grammes de glucides complexes par jour à son niveau. Pour les gens qui ne s'entraînent pas, s'ils suivent un peu la même méthode que Brad Pitt, il faudrait que ça soit à 100, moins de 100 grammes de glucides complexes par jour, bon, selon ce que j'ai lu pour lui. Notre prochaine superstar, personnellement, moi, c'est une de mes plus belles. Vraiment, là, j'aimerais définitivement lui ressembler. Je vais vous parler de Jennifer Lopez.
Pretty woman.
Donc, ah ouais, vraiment magnifique. Alors,
Je me mélange. C'est Julia Roberts.
Aussi belle, aussi belle.
Hein? Ben, Pretty Woman, belle. Moi, j'ai pas dit non. En fait,
non, elle Pretty Woman, mais c'est pas elle.
C'est ça.
C'est
donc,
single lady, je pense, plus.
Moi, je pense que Jennifer Lopez, pour la suivre sur Instagram, elle... je ne sais pas s'il y a un nom particulier, mais je sais qu'elle est forte à faire des cures de sucre. Dans le fond, elle élimine tous les sucres, pas de fruits, elle ne mange rien avec de sucre, puis elle fait des cures de sucre, puis elle les met dans ses stories Instagram. Là.
Mon Dieu, sa vie doit être plate.
Ouais. Puis effectivement, mais Janelle, tu as un bon point, puis c'est ça. Puis si je me souviens bien, parce que là, je ne l'ai pas noté, je pense qu'elle prend d'ailleurs, justement, tu fais même aucun alcool, absolument aucun alcool. Là.
Oh mon Dieu, sa vie doit être plate.
Non, trop de sucre là-dedans.
Ouais, ah ouais. Trop de sucre. Donc, effectivement, en fait, c'est Jennifer Lopez, je la définis avec la modération en bien meilleur goût. Hein, c'est un peu ça, elle, qu'elle préconise. Elle mange de tout, normalement, mais en petite quantité. Et lorsqu'elle veut perdre, par contre, justement, un petit peu plus de poids, elle coupe carrément là, les carbs, là, Janelle. Donc, ça rejoint ce que tu as suivi d'elle sur Instagram, donc les carbs ou les féculents.
Elle avait fait une grosse promo de ça avant le Super Bowl l'année passée. Elle avait tout documenté ça sur son compte Instagram.
Juste avant le Super Bowl, bonne chance.
Geneviève, tu nous en dis une dernière vedette?
Je vais aller avec Madonna. Alors, Madonna, elle préconise deux types de régimes, la macrobiotique et le régime de zone. Alors, dans le fond, qu'est-ce que c'est la macrobiotique? C'est pour elle, Madonna, c'est principalement végétarisme. C'est basé sur l'équilibre entre les aliments yin sucrés, les aliments yang, protéines animales et légumes riches. Alors, ça veut dire lait d'amande, tofu, miso, céréales entières. Donc, ce régime est principalement basé là-dessus. Sa dose des aliments pour perdre en protéines et maigrir de façon durable. Le régime de zone, lui, permet de perdre rapidement du poids. Ainsi, notre Madone se tient en dessous de 1500 calories par jour. Quels sont les péchés mignons de Madonna basés sur ce régime? Tisane au pissenlit, de l'eau de coco. Elle mange des graines de lin à la journée longue et boit sans modération une eau bénite de rite de la cabale.
Mais c'est parce qu'elle a des cuisiniers, elle. C'est facile quand tu as des cuisiniers puis tu dis au monde c'est ça que je veux faire. Mais là,
moins de 1200 calories, débrouille-toi.
Moi, des thés au pissenlit, j'en bois plein par jour.
Ouais, ben c'est ça. Ouais. Fait que, en tout cas, fait que la cabale, là, par exemple, genre ça, il n'y a pas de cuisinier qui peut te préparer ça, ça c'est le rabbin.
Oui, okay, merci. Hey, merci beaucoup, Geneviève. C'était vraiment le fun.
Avec plaisir. Merci.
Christine, on poursuit ton quiz. Et là, le son est peut-être pas super bon, mais c'est le mieux qu'on pouvait faire. On y va.
I can only have veggies and proteins. I can't have nuts, bread, or baked beans. My yogurt's gone bad, and I can't have any wine.
Hey, je vois vos visages, les acolytes, ça me semble difficile. Avez-vous des idées? Je parle la chanson après.
Elle ne mange pas de lait, c'est ça?
L'eau, moi, je pense que c'est comme sans pas de carbs, là. Low carb ou
ouais,
peut-être
ouais.
Keto, là.
Ah!
Keto?
C'est exactement ça.
C'est keto?
Ah, okay. Oui!
C'est exactement
mais
ça.
Mais c'est quoi qu'on écoutait, Christine?
Alors, on écoutait... Ben non, c'était pas Kid Rock et Sheryl Crow. Aviez-vous deviné avec les voix?
On n'avait pas.
En fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Facebook. C'est une dame qui chante qui s'appelle Rebecca Kuhn Boudreau. Écoutez, c'est pas quelqu'un de très connu. C'est sur le site de Facebook, oui, mais de KetoVille. Donc, c'est un site Facebook où on retrouve toutes sortes de recettes keto. C'est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs membres aussi dans ce groupe-là. Les paroles, parce que c'est ça qui est vraiment très drôle dans la chanson, c'est Alyssa Hunter. Hooter. Et voilà, moi, la voix, vous allez voir dans le prochain bout, la voix, c'est magnifique. On écoute encore un petit peu.
On y va.
I threw my pasta away, sat down and cried today. I can't live without any of my mac and cheese.
Yeah.
Merci beaucoup, Christine. On poursuit ce cabaret des acolytes sous le thème des modes alimentaires et je me tourne cette fois-ci vers Juan. C'est toi, Juan, notre architecte de l'histoire. Et Juanito, tu as choisi de nous parler du régime cétogène, le régime où on entend souvent keto parce que c'est en anglais. Et tu nous partages un peu ta vision et ton expérience au travers de tout ça.
Alors oui, alors en fait, ayant été végétarien pendant presque 3 ans, j'aurais pu aborder l'histoire du végétarisme, tu sais, puis vous dire que c'est un des régimes les plus anciens, probablement celui qui a le plus perduré au travers du temps et des millénaires de notre évolution. Mais personnellement, moi, ça m'a pas réussi. J'avais plein de bonnes intentions, le goût de sauver la planète. Je le gérais vraiment pas bien. J'arrivais tout simplement pas à équilibrer mes apports nutritifs, au point que c'est mon médecin qui m'a suggéré d'arrêter d'être végétarien et de manger de la viande. Bon, je me suis donc penché sur la diète keto parce qu'elle me parle plus. Comme l'a précisé Janelle, le céto ou le keto, c'est quoi? Pour un même apport calorique quotidien, on rééquilibre, j'ai envie de dire, on déséquilibre volontairement les apports de glucides en gardant l'apport protéiné identique. Donc en termes plus concrets, on réduit les sucres rapides, donc le sucre, les féculents, donc les sucres à assimilation lente, au profit du gras. Résultat, on bannit le riz, le pain, les patates, les pâtes, on mange plus de gras pour compenser et atteindre le même nombre de calories.
OK, mais c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que ça donne exactement, ça?
Alors, en fait, le corps obtient normalement son énergie en brûlant le sucre dans les muscles. Faute de sucre, il utilise le gras comme carburant. Et c'est ce processus que le régime cétogène veut recréer, en fait. Il veut faire croire à ton corps que tu es en train de jeûner. Ni plus ni moins, et avec ça, ben, tu arrives à perdre du poids.
OK, on veut comme donner des mauvaises indications à notre
exactement.
Notre cerveau. Ah, oui.
Okay. C'est pour on ça lui que, joue des tours.
Hein. En se basant sur les mécanismes biologiques qu'on connaît, qui fonctionnent très bien. Donc, ça fonctionne très bien.
C'est ça.
Sur le court terme.
C'est ça, ouais. Ça fonctionne très bien, mais ils disent que dans tout ce que j'ai pu lire, qu'il faut quand même être encadré si on veut le faire sur le long terme. Effectivement, t'as raison, Jean-Claude, dans ce que tu dis, c'est vraiment partout, dans toutes mes lectures, c'était présent. Donc, si on en entend parler depuis quelques temps, donc depuis quelques années dans le grand public, c'est une diète que les sportifs ont suivi naturellement depuis très 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 longtemps, depuis même l'Antiquité grecque. Il semble qu'on ait retrouvé des écrits de l'équivalent de nos nutritionnistes de l'époque qui conseillaient un régime différent aux athlètes avec un apport en protéines et en gras un peu plus important, tout en limitant les féculents et les sucres. Donc ça ne date pas d'hier, en fait, ce régime-là.
Intéressant.
Les autres faits notables sur ce régime alimentaire, c'est que jusqu'au début du siècle dernier, donc pratiquement jusqu'à la fin des années folles, il a été prescrit comme seul et unique traitement principal aux personnes souffrant d'épilepsie. Jusqu'à bien entendu l'apparition des traitements un peu plus chimiques, donc de la médication qui vient vraiment aider les épileptiques d'une façon un peu plus forte. Mais encore aujourd'hui, pour les personnes qui sont les personnes épileptiques en fait qui ne répondent pas en fait au traitement chimique, on leur prescrit un régime céto, bien entendu sous surveillance médicale, et ça a quand même certains résultats. J'ai lu notamment une étude qui disait que une étude parmi tant d'autres, en fait, qui donnait vraiment des chiffres concrets que pour les enfants qui suivent un régime keto et sous supervision médicale et qui sont épileptiques, on note que dans 60% des cas, la fréquence diminue de moitié. Donc, ça veut dire qu'il y aurait quand même 60% des enfants qui répondent à ce régime-là. Pour les adultes, on passe à 40 à 50%, donc c'est un peu moins probant, mais quand même. D'après cette étude-là, on diminuerait de beaucoup en fait les crises des personnes épileptiques avec le régime céto. Tout cela dit, je veux quand même mettre en garde le monde. En fait, changer ses habitudes alimentaires, je le sais par expérience, ça peut être dangereux. Je vous avais dit, j'ai été végétarien, puis j'ai dû aller voir un médecin. Dans le fond, le régime de l'un ne s'adapte pas forcément à l'autre. Le mieux, c'est d'aller consulter un nutritionniste ou un spécialiste de la santé. Le régime keto ou céto, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un régime qui est déséquilibré, donc qui comporte des dangers, notamment de développer des carences en vitamines, par exemple. Puis rappelez-vous ce qu'on disait dans notre cabaret sur les vitamines avec l'importance du riz avec certaines maladies qui étaient liées à la malnutrition dans une prison en Hollande. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui, oui.
C'est là qu'on avait découvert la vitamine B1.
Et ceux qui s'en rappellent pas, le podcast est toujours disponible.
Exactement. donc faut vraiment faire attention. Donc personnellement, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'appliquer certaines notions du céto, donc sur un cycle de 5 jours que je répète. Donc en fait, j'en prends et j'en laisse. À savoir qu'une journée, je mange complètement équilibré, donc avec un apport complètement normal de mes glucides, lipides et de mes protéines. Le lendemain, je réduis un peu mes féculents, puis j'augmente un peu le reste. Le troisième jour, je mange pas du tout de féculents ni de sucre, je suis complètement céto. Le quatrième jour, oui, Jean-Claude.
Non, excuse-moi, ça montrait bien que c'est pas un régime qui est soutenable sur le long terme. Puis on dit que les gens qui le suivent trichent tout le temps. Finalement, ils ne suivent pas le régime keto tel qu'il est prescrit.
Non, puis ça
parce
donne
qu'il faim. C'est une preuve qu'il ne fonctionne pas. Il faut aller vers une plus grande balance. Mais excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, mais c'est ça. Et puis dans le fond, ma balance, je la trouve sur 5 jours, comme tu disais. Puis donc le troisième jour, je mange vraiment céto. Le quatrième jour, je remange un peu de féculents. Le cinquième jour, je remange normalement. Et après ça, ainsi de suite, je recommence mon cycle en fait de 5 jours. Donc c'est ma recette qui m'a permis en fait moi d'atteindre mon poids idéal et de me sentir bien dans ma peau.
Puis il est beau comme un cœur.
Oh,
et gentil. Vous semblez apporter beaucoup d'insistance sur le physique, mais ouais. Vous savez, hein, le mental.
Il est pris, c'est ça l'affaire.
Et j'ai 0,5 points au quiz à date. Fait que...
Alors, la prochaine, je pense que Christine t'en a fait une facile pour toi, Juanito.
C'est pour toi.
On y va. Se tu cerchi vitamina e allenarti un po' di più. Fitness, ginnastica, palestra, aerobica, stretching e suda di più. Keto, 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 ketoni. Keto, 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 ketoni. Keto, 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 ketoni. Moi.
Oui,
Juan,
oui.
Moi, je pense que c'est keto. Je pense que c'est keto.
Ah, oh, excellent, Juan!
Oh!
Ton point de la soirée.
Si c'était pas des paroles, ça aurait pu être un hit, cette chanson-là. Hein? Keto, keto, keto!
Mais tu sais que jusqu'à temps qu'ils disent ça, j'avais pas compris c'était quoi, hein?
Ben non, c'est évident.
Non, mais il parlait de stretching, puis de... Tu sais, il y avait des mots d'exercice là-dedans, là.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait tout ça, effectivement. on écoutait la chanson Keto, Keto du chanteur Giovanni Drudi. Sûrement que je le prononcerais bien, c'est un chanteur italien des années 80. Vous avez reconnu l'italien dans la chanson?
Keto!
Oui.
Alors, c'est un beau parleur hein, s'il suit ce régime-là à long terme.
Merci beaucoup, Christine. Alors, maintenant, c'est le temps d'interviewer notre cher ami, notre professeur, Jean-Claude Moubarek, professeur et chercheur en nutrition publique à l'Université de Montréal. Il est dans son domaine parmi les scientifiques les plus cités à l'échelle internationale. Bienvenue, Jean-Claude, encore.
Merci.
On va passer les prochaines minutes avec toi et disons-le d'entrée de jeu, tu es quand même une éminence dans ton domaine et je l'ai dit en ouverture d'émission, tu as participé à la création du guide alimentaire brésilien qui a grandement inspiré le guide alimentaire canadien. Et tu nous écoutes depuis tout à l'heure et on parle d'une multitude de régimes alimentaires, mais je suis curieux de t'entendre, toi, est-ce qu'il y a un mode alimentaire qui est davantage bénéfique que d'autres pour l'être humain?
C'est une bonne question, Jean-François. Ça fait quoi, 4-5 millions d'années que l'être humain existe, puis on se demande encore qu'est-ce qu'on doit manger. C'est assez exceptionnel. Et je pense que c'est à cause de notre perte de la culture. Vous savez, quand les gens mangent selon leur culture, selon la tradition, les gens se posent beaucoup moins de questions. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les modes alimentaires se multiplient et les gens ne savent plus quoi manger. Et ça, c'est, je crois que c'est lié à toute cette industrialisation de l'alimentation et le système capitaliste qui fait en sorte que on est perdu. On est dans ce qu'on appelle la cacophonie nutritionnelle. Donc, dans ce monde-là, je te dirais que tous les modes qui ont été présentés ont tous quelque chose d'intéressant. Ils touchent à un point important de la nutrition. Certains vont mettre l'accent sur le local. Donc, on sait qu'il faut manger local pour diminuer l'impact de notre système alimentaire sur les changements climatiques. Certains vont parler d'éliminer la viande parce qu'ils critiquent les modes de production qui sont pas éthiques. Donc, chacun a raison d'un côté, mais je dirais que chaque mode a le problème d'être un peu aveuglé par l'ensemble de ce qu'est la nutrition. Fait que je te dirais qu'aucune des modes alimentaires qui ont été présentés pour moi ne fait du sens complètement. Et je te dirais que je te proposerais davantage des recommandations générales qui seraient vraies pour tout type de mangeurs.
Comme Jean-Claude, ça me fait penser quand on lit sur le moindrement qu'on lit sur les modes alimentaires, on lit souvent que le mode méditerranéen est un mode qui a bien fonctionné, qui fonctionne bien. Ouais. Et je pense que tes recherches vont aussi dans ce sens. Est-ce que je me trompe?
Oui, non, c'est exact. Le régime méditerranéen a fait ses preuves, mais il n'est pas nécessairement fait pour tout le monde parce que le régime méditerranéen se base sur des produits locaux qu'on trouve dans la Méditerranée qu'on ne retrouve pas ici au Canada.
Ah d'accord. Donc, pour nous, c'est difficile de manger des olives, par exemple, qui est important dans la nourriture méditerranéenne.
Oui. Alors que lorsqu'on compare tous les modes alimentaires, puis on peut inclure le régime méditerranéen, on peut essayer d'identifier des éléments clés okay. communs à l'ensemble des régimes. Je vais vous le dire, c'est très, très simple. Le journaliste Michael Pollan l'a résumé il y a plusieurs années dans un livre où il dit il y a trois règles importantes pour bien manger. Manger vrai, de vrais aliments, manger en quantité raisonnable et manger plus de végétaux que de produits animaux. Donc, si vous avez respecté ces trois règles-là, de manger des vrais aliments, ça veut dire des aliments les plus complets possibles, qui sont moins transformés, si vous consommez davantage de végétaux et si vous mangez en quantité limitée raisonnablement, là, en fonction de ce que vous avez besoin comme quantité d'énergie, ben vous allez probablement avoir un régime alimentaire qui va être adéquat. Parce qu'il y a mille et une façons de bien manger, il y a mille et une façons de bien combiner les aliments, mais l'important, c'est de respecter des principes de base comme ceux que je viens d'énumérer. C'est ce qui fait que les véganes peuvent bien manger, mais ils vont choisir des vrais aliments, donc des légumineuses, au lieu de choisir, par exemple, le fromage qui va contenir beaucoup d'additifs et qui finalement n'est pas nutritif. Nos recherches nous mènent à conclure que les aliments ultra-transformés, eux, sont définitivement mauvais pour la santé. Les aliments ultra-transformés, ça va être les Oreos, ça va être le McDonald's, ça va être des produits comme le fromage également, qui contiennent peu d'aliments et qui sont un ensemble de substances et d'additifs mis ensemble, qui ont un très bon goût, mais qui ont peu d'éléments nutritifs. Donc, je dirais qu'on peut être vegan et manger très bien, on peut être vegan et manger très mal. Tout dépend qu'est-ce qu'on choisit comme aliment. Même chose pour les carnivores. Vous pouvez être carnivore et manger très, très mal.
Oui, quelqu'un a dit que Dieu avait inventé l'aliment et le diable a inventé l'assaisonnement.
Ben non, je ne serais pas d'accord. Non? Je dirais que l'être humain, de par la cuisine et de par les ingrédients qu'ils ont développés, a complètement révolutionné notre histoire. La cuisine, JF, ça fait partie de notre fibre humaine. La cuisine, c'est peut-être un des principes de base qu'il faut respecter. Ce qui a détruit l'aliment, je te dirais, c'est l'industrialisation.
Ah, d'accord. Ce
que l'industrie va faire souvent aujourd'hui, elle va prendre les aliments, elle va les décomposer en substances et elle va utiliser ces substances pour fabriquer de nouveaux produits qui n'ont rien à voir avec les aliments d'origine et qui sont faits pour nous encourager à consommer davantage. Pensez aux Doritos, aux Oreos, aux McDonald's. Ces produits-là sont très riches en sucre, gras et sel et ont peu d'éléments naturels, d'éléments nourrissants. Donc, mais c'est vrai qu'avec la cuisine, on peut mal manger. On peut trop saler un repas, trop frire un repas. Donc, mais la cuisine, je dirais que c'est à la fois le succès de notre alimentation, mais c'est également, il peut y avoir des dangers.
Juanito, tu veux parler?
Ouais, moi j'avais une question. Tantôt, tu nous parlais des aliments qui étaient appelés par leur fonction, en fait. Puis tu nous as parlé des antioxydants, puis tu nous disais que ça avait une grosse mode sur les antioxydants, etc. Ben, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi, je suis vendu antioxydants. Puis en fait, je veux savoir pourquoi c'est pas nécessairement une bonne affaire.
Ben, les aliments, ce sont des mélanges très, très complexes de plein d'éléments. Il y a des antioxydants, il y a des protéines, des glucides, il y a des lipides. Et il y a plein, plein, plein de choses qu'on n'a pas encore découvert. Okay? Plus la science avance, plus on découvre que dans les aliments, il y a des choses très intéressantes. Comme dans les fruits, par exemple, on va trouver des antioxydants. Mais l'important, c'est pas de manger la substance qu'on a identifiée qui est fonctionnelle. L'important, c'est de manger l'ensemble de l'aliment parce que le bienfait de l'aliment est dû à la synergie des éléments. Un peu comme l'idée de l'union fait la force. Là. Quand on ne sait pas encore en nutrition pourquoi les fruits sont bons pour la santé. Mais on a beaucoup, beaucoup d'études qui nous démontrent qu'ils sont très bons. Peut-être parce qu'ils sont riches en antioxydants, riches en fibres et plein d'autres raisons. Donc, je vais juste terminer. Au lieu d'aller isoler la raison puis de la consommer via une pilule, il faut consommer l'aliment dans sa complexité puis essayer de manger le plus varié possible parce que il n'y a pas un aliment qui, à lui seul, va être suffisamment nourrissant. Il n'y a pas de super aliment. C'est une combinaison d'aliments qui vont nous combler nos besoins nutritionnels. Et c'est des principes qu'il faut essayer de respecter plutôt que de trouver la solution ou l'aliment miracle. Parce qu'on est bon aujourd'hui pour trouver la solution qui va faire en sorte qu'on ne va rien changer, mis à part cette solution miracle.
C'est vraiment intéressant.
Geneviève?
Donc, Jean-Claude, si je comprends bien, tu n'es pas nécessairement, toi, en faveur des oméga-3 qu'on consomme, par exemple, sous forme de gélules.
Non, je dirais que moi, je suis toujours en faveur des aliments qui contiennent des oméga-3, qui contiennent des antioxydants, qui contiennent des fibres, parce que les recherches ont démontré que quand on isole les oméga-3 ou les vitamines, puis on les consomme, ben ça n'a pas les mêmes effets sur le corps que quand on consomme l'aliment qui les contient.
OK.
Parce que, donc, c'est comme si je te dirais, l'eau, c'est pas important. L'important, c'est de consommer deux atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène. Non. Si tu les combines, tu vas pas arriver à l'eau. Ouais. L'eau, c'est quelque chose de complexe et donc, il faut que tu consommes le truc au complet. C'est un peu la seule logique.
Merci.
Et dans tes recherches aussi, Jean-Claude, je m'en voudrais qu'on parle pas aussi de comment on mange. Parce que c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on mange, mais il faut aussi dans notre mode alimentaire de s'interroger sur le comment on le fait. Hein?
Oui, puis je pense qu'on pourrait faire le lien avec le régime instincto-nutrition. C'est que, oui, il faut prendre plus conscience de ce qu'on mange. Il faut prendre le temps de manger puis être à l'écoute de son corps. Donc, c'est peut-être le lien qu'on fait avec le côté instinctif. Le corps humain, c'est une machine qui est parfaite. Mais il faut lui donner ce qu'elle a besoin, donc les vrais aliments. Et les vrais aliments vont faire en sorte que vous allez pouvoir manger selon votre faim, alors que les signaux de satiété vont entrer en fonction. Lorsque vous mangez en dessous de 20 minutes, votre corps n'a pas le temps d'enregistrer ce que vous mangez. Donc, vous allez avoir tendance à surconsommer. Donc, de prendre le temps de manger calmement est aussi important que de ce qu'on mange. Et de plus en plus en nutrition, on comprend que la nutrition humaine doit tenir compte du comportement humain parce que voilà, parce que c'est logique.
Wow! Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont interpellés par ce que tu dis quand on
parle. Hyper intéressant.
Quand vraiment, tu parles du 20 minutes, ça va nous questionner. On va essayer d'étirer ça demain au dîner au souper. Jean-Claude, professeur. Oui, vas-y.
Juste en conclusion, Jeff, je te dirais que je suis beaucoup la nutrition. Les nutritionnistes sont en train de doucement mais sûrement migrer vers cette approche-là. Et je pense que si on doit faire attention au mode commercial parce que ça aussi c'est quelque chose de très réel et vraiment de s'interroger sur l'information qu'on reçoit. Puis j'encouragerais les gens de toujours suivre l'information qui vient de Santé Canada qui nous donne l'information la plus crédible, juste et claire sur la nutrition.
Wow, merci beaucoup, Jean-Claude. Tu sais, Jean-Claude, on parle souvent de nutrition, d'aliments, de local à notre émission. On est convaincu, on va te réinviter à l'émission. Un de tes sujets, c'est aussi les aliments ultra transformés, là, comme tu le disais, c'est un sujet intéressant. Là, on brainstormait ensemble, là, peut-être les frites, les chips, là, peut-être que ça pourrait être un thème éventuellement à l'émission. On t'invitera, c'est certain, promis. Jean-Claude Moubarak, professeur et chercheur en nutrition à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Jean-Claude.
I'm a Weight Watcher. I'm a Plate Watcher. Watching food go by. My, my, my. Plate of cheese nachos. I gotta watch those. Here comes some now.
Il fallait être attentif au début de cette chanson-là, hein, Christine?
Ah oui, tout à fait. T'es en fait. L'avez-vous deviné?
Quelqu'un l'a trouvé?
Oui, moi, je l'ai entendu.
Oui, vas-y.
Je pense que j'ai entendu le courant Weight Watcher.
Exactement, ouais. Exactement. Écoute, très marketing aussi, là. Il y a Oprah Winfrey, Geneviève, tu parlais des stars qui avaient alimenté certaines modes alimentaires. Certaines modes alimentaires, c'est un petit jeu de En fait, c'était la chanson « I'm a Weight Watcher » de Bob River. Ça conclut. En fait, vous avez bien joué à mon petit quiz là, sur les modes alimentaires.
Merci. Et Juan, a-t-il gagné, Juan?
J'ai gagné.
Il y a un point et demi.
Est-ce que je peux rejouer la prochaine fois?
Merci beaucoup tout le monde. J'espère qu'on vous aura fait voyager sur le thème des modes alimentaires. C'est déjà la fin de ce cabaret. Si vous avez aimé le cabaret des acolytes, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux et visitez également notre page Facebook et abonnez-vous facebook.com le cabaret des acolytes. Juan Ito, un petit mot rapide pour la fin.
Eh bien, moi, je vais vous dire que quand vous participez à un quiz, n'hésitez pas à buzzer le premier, parce que sinon, vous n'avez pas le temps de répondre.
Geneviève, un mot de la fin?
L'équilibre.
Ah, c'est bon. Christine?
Hey, encore une fois, moi, j'ai adoré notre émission. Et comme toujours, j'ai beaucoup appris. Écrivez-nous, les éditeurs, parce que moi, j'aime ça vous lire. Puis j'aime ça savoir qu'est-ce que vous pensez de l'émission. Et je dois vous dire aussi, chers auditeurs, que la semaine prochaine, nous traiterons du thème que j'ai sélectionné. Est-ce que je le dis, Jean-François?
Oui, oui, tu peux le dire. Pas la semaine prochaine, dans deux semaines.
Dans deux semaines, notre prochain podcast, en fait. Ouais. Alors, notre thème tournera autour de la forêt.
La forêt, c'est bon. Bon thème, Christine. OK, on a hâte de vous préparer ça. On vous prépare ça dans deux semaines. Promis. Janelle, un mot de la fin?
Oui, moi, je sors mon timer pour manger maintenant. 20 minutes, c'est ça qui va se passer.
Jean-Claude Moubarak, merci beaucoup. Merci d'avoir participé au Cabaret des Acolytes.
Merci à tous, puis je souhaiterais à tout le monde bon appétit.
Ah, merci. Ce balado est une production Fort Talent. On participé à cet épisode Geneviève Proulx, Janelle Touchette, Christine Gélina, Juan Blasco. Nous avions comme invité Jean-Claude Moubarak, professeur et chercheur au département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse sur cette réflexion, une citation cette semaine de Barbara Streisand. Peu importe votre mode alimentaire, la vie est trop courte, commencez donc par le dessert. Bonne semaine tout le monde!